Pierre Loti, le roman d'un enfant. À Sa Majesté la Reine Élisabeth de Roumanie, décembre 1880. Il se fait presque tard dans ma vie pour que j'entreprenne ce livre. Autour de moi déjà tombe une sorte de nuit. Où trouverais-je à présent des mots assez frais, des mots assez jeunes? Je le commencerai de main en mer. Au moins essaierai-je d'y mettre ce qu'il y a eu de meilleur en moi, à une époque où il n'y avait rien de bien mauvais encore. Je l'arrêterai de bonne heure, afin que l'amour n'y apparaisse qu'à l'état de rêve imprécis. Et, à la souveraine de qui me vient l'idée de l'écrire, je l'offrirai comme un humble hommage de mon respect charmé. Pierre Loti. C'est avec une sorte de crainte que je touche à l'énigme de mes impressions du commencement de la vie. Incertain si bien réellement je les éprouvais moi-même, ou si plutôt elles n'étaient pas des ressouvenirs mystérieusement transmis. J'ai comme une hésitation religieuse à sonder cet abîme. Au sortir de ma nuit première, mon esprit ne s'est pas éclairé progressivement par lueur graduée, mais par jet de clarté brusque qui devait dilater tout à coup mes yeux d'enfant et m'immobiliser dans des rêveries attentives. Puis qui s'éteignait, me replongeant dans l'inconscient absolu des petits animaux qui viennent de naître, des petites plantes à peine germées. Au début de l'existence, mon histoire serait simplement celle d'un enfant très choyé, très tenu, très obéissant et toujours convenable dans ses petites manières, auquel rien n'arrivait dans son étroite sphère ouatée qui ne fût prévue, et qu'aucun coup n'atteignait qui ne fût amorti avec une sollicitude tendre. Aussi voudrais-je ne pas écrire cette histoire qui serait fastidieuse, mais seulement noter, sans suite ni transition, des instants qui m'ont frappé d'une étrange manière, qui m'ont frappé tellement que je m'en souviens encore avec une netteté complète, aujourd'hui que j'ai oublié déjà tant de choses poignantes. Et tant de lieux, tant d'aventures, tant de visages. J'étais en ce temps-là un peu comme serait une hirondelle née d'hier, très haut à l'angle d'un toit, qui commencerait à ouvrir de temps à autre au bord du nid son petit œil d'oiseau et s'imaginerait, de là, en regardant simplement une cour ou une rue, voir les profondeurs du monde et de l'espace. Des grandes étendues de l'air que plus tard il lui faudra parcourir. Ainsi, durant ces minutes de clairvoyance, j'apercevais furtivement toutes sortes d'infinis dont je possédais déjà sans doute, dans ma tête, antérieurement à ma propre existence, les conceptions latentes. Puis refermant malgré moi l'œil encore trouble de mon esprit, je retombais pour des jours entiers dans ma tranquille nuit initiale. Au début, ma tête toute neuve et encore obscure pourrait aussi être comparée à un appareil de photographe rempli de glace sensibilisée. Sur ces plaques vierges, les objets insuffisamment éclairés ne donnent rien. Tandis que, au contraire, quand tombe sur elle une vive clarté quelconque, elle se cerne de larges taches claires où les choses inconnues du dehors viennent se graver. Mes premiers souvenirs, en effet, sont toujours de plein été lumineux, de midi étincelant, ou bien de feux de branches à grandes flammes roses. Comme si c'était hier, je me rappelle le soir où, marchant déjà depuis quelque temps, je découvris tout à coup la vraie manière de sauter et de courir, et me grisais jusqu'à tomber de cette chose délicieusement nouvelle. Ce devait être au commencement de mon second hiver, à l'heure triste où la nuit vient, dans la salle à manger de ma maison familiale, qui me paraissait alors un lieu immense. J'étais, depuis un moment sans doute, engourdie et tranquille, sous l'influence de l'obscurité envahissante. Pas encore de lampe allumée nulle part. Mais l'heure du dîner approchant, une bonne vint, qui jeta dans la cheminée, pour ranimer les bûches endormies, une brassée de menu bois. Alors ce fut un beau feu clair, subitement une belle flambée joyeuse illuminant tout. Et un grand rond lumineux se dessina au milieu de l'appartement, par terre, sur le tapis, sur les pieds des chaises, dans ces régions basses qui étaient précisément les miennes. Et ces flammes dansaient, changeaient, s'enlaçaient, toujours plus hautes et plus gaies, faisant monter et courir le long des murailles les ombres allongées des choses. Oh, alors je me levais tout droit, saisi d'admiration. Car je me souviens à présent que j'étais assis au pied de ma grand-tante Berthe, déjà très vieille en ce temps-là, qui sommeillait à demi dans sa chaise, près d'une fenêtre par où filtrait la nuit grise. J'étais assis sur une de ces hautes chaufferettes d'autrefois, à deux étages, si commodes pour les tout petits enfants qui veulent faire les câlins, la tête sur les genoux des grands-mères ou des grands-tantes. Donc je me levais en extase, et m'approchais de la flamme. Puis, dans le cercle lumineux qui se dessinait sur le tapis, je me mis à marcher en rond, à tourner toujours plus vite. Et enfin, sentant tout à coup dans mes jambes une élasticité inconnue, quelque chose comme une détente de ressort, j'inventai une manière nouvelle et très amusante de faire. C'était de repousser le sol bien fort, puis de le quitter des deux pieds à la fois pendant une demi-seconde. Et de retomber, et de profiter de l'élan pour m'élever encore, et de recommencer toujours. Pouf, pouf, en faisant beaucoup de bruit par terre, et en sentant dans ma tête un petit vertige particulier, très agréable. De ce moment, je savais sauter, je savais courir. J'ai la conviction que c'était bien la première fois, tant je me rappelle nettement mon amusement extrême et ma joie étonnée. « Ah, oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a ce petit, ce soir ?» disait ma tante Berthe un peu inquiète. Et j'entends encore le son de sa voix brusque. Mais je sautais toujours, comme ces petites mouches étourdies, grisées de lumière, qui tournoient le soir autour des lampes. Je sautais toujours dans ce rond lumineux qui s'élargissait, se rétrécissait, se déformait, dont les contours vacillaient comme les flammes. Et tout cela m'est encore si bien présent que j'ai gardé dans mes yeux les moindres rayures de ce tapis sur lequel la scène se passait. Il était d'une certaine étoffe inusable, tissée dans le pays par les tisserands campagnards, et aujourd'hui tout à fait démodée, qu'on appelait nouisse. Notre maison d'alors était restée telle que ma grand-mère maternelle l'avait arrangée lorsqu'elle s'était décidée à quitter l'île pour venir se fixer sur le continent. Je reparlerai un peu plus tard de cette île qui prit bientôt pour mon imagination d'enfant un attrait si mystérieux. C'était une maison de province très modeste où se sentait l'austérité huguenote et dont la propreté et l'ordre irréprochable étaient le seul luxe. Dans le cercle lumineux qui décidément se rétrécissait de plus en plus, je sautais toujours. Mais tout en sautant, je pensais. Et d'une façon intense qui certainement ne m'était pas habituelle. En même temps que mes petites jambes, mon esprit s'était éveillé. Une clarté un peu plus vive venait de jaillir dans ma tête, où l'aube des idées était encore si pâle. Et c'est sans doute à cet éveil intérieur que ce moment fugitif de ma vie doit ses dessous insondables, qu'il doit surtout la persistance avec laquelle il est resté dans ma mémoire gravé ineffaçablement. Mais je vais m'épuiser en vain à chercher des mots pour dire tout cela, dont l'indécise profondeur m'échappe. Voici, je regardais ces chaises alignées le long des murs, et je me rappelais les personnes âgées, grand-mères, grand-tantes et tantes, qui y prenaient place d'habitude, qui tout à l'heure viendraient s'y asseoir. Pourquoi n'étaient-elles pas là ? En ce moment, j'aurais souhaité leur présence autour de moi comme une protection. Elles se tenaient sans doute là-haut, au second étage, dans leur chambre. Entre elle et moi, il y avait les escaliers obscurs, des escaliers que je devinais pleins d'ombre et qui me faisaient frémir. Et ma mère? J'aurais surtout souhaité sa présence à elle, mais je la savais sortie dehors, dans ces rues longues dont je ne me représentais pas bien les extrémités, les aboutissements lointains. J'avais été moi-même la conduire jusqu'à la porte en lui demandant « Tu reviendras, dis ?» Et elle m'avait promis qu'en effet, elle reviendrait. On m'a conté plus tard qu'étant tout petit, je ne laissais jamais sortir de la maison aucune personne de la famille, même pour la moindre course ou visite, sans m'être assurée que son intention était bien de revenir. « Tu reviendras, dis ?» était une question que j'avais coutume de poser anxieusement, après avoir suivi jusqu'à la porte ceux qui s'en allaient. Ainsi ma mère était sortie. Cela me serrait un peu le cœur de la savoir dehors, les rues. J'étais bien content de ne pas y être, moi, dans les rues, où il faisait froid, où il faisait nuit, où les petits-enfants pouvaient se perdre. Comme on était bien ici, devant ces flammes qui réchauffaient, comme on était bien dans sa maison. Peut-être n'avais-je jamais compris cela comme ce soir. Peut-être était-ce ma première vraie impression d'attachement au foyer, et d'inquiétude triste à la pensée de tout l'immense inconnu du dehors. Ce devait être aussi mon premier instant d'affection consciente pour ces figures vénérées de tantes et de grand-mères qui ont entouré mon enfance, et que, à cette heure de vague anxiété crépusculaire, j'aurais désiré avoir toutes, à leur place accoutumée, assises en cercle autour de moi. Cependant, les belles flammes folles de la cheminée avaient l'air de se mourir. La brassée de menu bois était consumée. Et comme on n'avait pas encore allumé de lampe, il faisait plus noir. J'étais déjà tombée une fois sur le tapis de nouilles, sans me faire de mal. Et j'avais recommencé de plus belle. Par instants, j'éprouvais une joie étrange à aller jusque dans les recoins obscurs, où me prenait je ne sais quelle frayeur de choses sans nom. Puis à revenir me réfugier dans le cercle de lumière, en regardant avec un frisson si rien n'était sorti derrière moi, de ces coins d'ombre, pour me poursuivre. Ensuite, les flammes se mourant tout à fait, j'eus vraiment peur. Tante Berthe, trop immobile sur sa chaise et dont je sentais le regard seul me suivre, ne me rassurait plus. Les chaises mêmes, les chaises rangées autour de la salle, commençaient à m'inquiéter à cause de leurs grandes ombres mouvantes qui, au gré de la flambée et à l'agonie, montaient derrière elles, exagérant la hauteur des dossiers le long des murs. Et surtout, il y avait une porte entr'ouverte sur un vestibule tout noir, lequel donnait sur le grand salon plus vide et plus noir encore. Oh, cette porte, je la fixais maintenant de mes pleins yeux, et pour rien au monde je n'aurais osé lui tourner le dos. C'était le début de cette erreur des soirs d'hiver qui, dans cette maison pourtant si aimée, ont beaucoup assombri mon enfance. Ce que je craignais de voir arriver par là n'avait encore aucune forme précise. Plus tard seulement, mes visions d'enfant prirent figure. Mais la peur n'en était pas moins réelle et m'immobilisait, là, les yeux très ouverts, auprès de ce feu qui n'éclairait plus. Quand tout à coup, du côté opposé, par une autre porte, ma mère entra. Oh, alors je me jetais sur elle, je me cachais la tête, je m'abîmais dans sa robe. C'était la protection suprême, l'asile où rien n'atteignait plus, le nid des nids où l'on oubliait tout. Et à partir de cet instant, le fil de mon souvenir est rompu. Je ne retrouve plus rien. Après l'image ineffaçable laissée par cette première frayeur et cette première danse devant une flambée d'hiver, des mois ont dû passer sans que rien se gravât plus dans ma tête. Je retombais dans cette demi-nuit des commencements de la vie que traversaient à peine d'instables et confuses visions, grises ou roses, sous des reflets d'aube. Et je crois que l'impression suivante fut celle-ci, que je vais essayer de traduire. Impression d'été, de grand soleil, de nature et de terreur délicieuse à me trouver seule au milieu de hautes herbes de juin qui dépassaient mon front. Mais ici, les dessous sont encore plus compliqués, plus mêlés de choses antérieures à mon existence présente. Je sens que je vais me perdre là-dedans, sans parvenir à rien exprimer. C'était dans un domaine de campagne appelé la Limoise, qui a joué plus tard un grand rôle dans ma vie d'enfant. Il appartenait à de très anciens amis de ma famille, les D, qui en ville étaient nos voisins, leur maison touchant presque la nôtre. Peut-être l'été précédent étais-je déjà venue à cette Limoise, mais elle était inconsciente de poupées blanches que l'on avait apportées au cou. Ce jour dont je vais parler était certainement le premier où j'y venais comme petit être capable de penser, de tristesse et de rêve. J'ai oublié le commencement, le départ, la route en voiture, l'arrivée. Mais par un après-midi très chaud, le soleil déjà bas, je me revois et me retrouve si bien, seule au fond du vieux jardin à l'abandon, que des murs gris, rongés de lierre et de lichen, séparaient des bois, des landes à bruyères, des campagnes pierreuses d'alentour. Pour moi élevé à la ville, ce jardin très grand, qu'on entretenait guère, et où les arbres fruitiers mouraient de vieillesse, enfermait des surprises et des mystères de forêt vierge. Ayant sans doute franchi les buis de bordure, je m'étais perdue au milieu d'un des grands carrés incultes du fond, parmi je ne sais quelle haute plante folle. Des asperges montées, je crois bien, envahies par de longues herbes sauvages. Puis je m'étais accroupie à la façon de tous les petits enfants, pour m'enfouir davantage dans tout cela qui me dépassait déjà grandement quand j'étais debout. Et je restais tranquille, les yeux dilatés, l'esprit en éveil, à la fois effrayé et charmé. Ce que j'éprouvais en présence de ces choses nouvelles était encore moins de l'étonnement que du ressouvenir. La splendeur des plantes vertes qui m'enlaçaient de si près, je savais qu'elle était partout, jusque dans les profondeurs jamais vues de la campagne. Je la sentais autour de moi, triste et immense, déjà vaguement connue. Elle me faisait peur, mais elle m'attirait cependant. Et pour rester là le plus longtemps possible, sans qu'on vînt me chercher, je me cachais encore davantage, ayant pris sans doute l'expression de figure d'un petit pot rouge dans la joie de ces forêts retrouvées. Mais tout à coup, je m'entendis appeler. « Pierre ! Pierre ! Mon petit Pierrot !» Et sans répondre, je m'aplatis bien vite au ras du sol, sous les herbages et les fines branches fenouillées des asperges. « Encore ! Pierre ! Pierre !» C'était Lucette. Je reconnaissais bien sa voix, et même à son petit ton moqueur, je comprenais qu'elle me voyait dans ma cache verte. Mais je ne la voyais point, moi. J'avais beau regarder de tous les côtés, personne. Avec des éclats de rire, elle continuait de m'appeler, en se faisant des voix de plus en plus drôles. Où donc pouvait-elle bien être? Ah, là-bas, en l'air, perchée sur la fourche d'un arbre tout tordu qui avait comme des cheveux gris en lichen. Je me relevais alors, très attrapée d'avoir été ainsi découvert. Et en me relevant, j'aperçus au loin, par-dessus le fouillis des plantes agrestes, un coin des vieux murs couronnés de lierre qui enfermait le jardin. Ils étaient destinés à me devenir très familiers plus tard, ces murs-là, car pendant mes jeudis de collège, j'y ai passé bien des heures perchées, observant la campagne pastorale et tranquille, et rêvant au bruit des sauterelles à des sites encore plus ensoleillés de pays lointains. Et ce jour-là, leurs pierres grises, disjointes, mangées de soleil, mouchetées de lichen, me donnèrent pour la première fois de ma vie l'impression mal définie de la vétusté des choses, la vague conception des durées antérieures à moi-même, du temps passé. Lucette D, mon aînée de 8 ou 9 ans, était déjà presque une grande personne à mes yeux, Je ne pouvais pas la connaître depuis bien longtemps, mais je la connaissais depuis tout le temps possible. Un peu plus tard, je l'ai aimée comme une sœur. Puis sa mort prématurée a été un de mes premiers vrais chagrins de petit garçon. Et c'est le premier souvenir que je retrouve d'elle, son apparition dans les branches d'un vieux poirier. Encore ne s'est-il fixé ainsi qu'à la faveur de ces deux sentiments tout nouveaux auxquels il s'est trouvé mêlé. L'inquiétude charmée devant l'envahissante nature verte et la mélancolie rêveuse en présence des vieux murs, des choses anciennes, du vieux temps. Je voudrais essayer de dire maintenant l'impression que la mer m'a causée lors de notre première entrevue, qui fut un bref et lugubre tête-à-tête. Par exception, celle-ci est une impression crépusculaire. On y voyait à peine, et cependant l'image apparue fut si intense qu'elle se grava d'un seul coup pour jamais. Et j'éprouve encore un frisson rétrospectif dès que je concentre mon esprit sur ce souvenir. J'étais arrivée le soir, avec mes parents, dans un village de la côte Saint-Ongèse, dans une maison de pêcheurs louée pour la saison des bains. Je savais que nous étions venus là pour une chose qui s'appelait la mer, mais je ne l'avais pas encore vue. Une ligne de dune me la cachait à cause de ma très petite taille, et j'étais dans une extrême impatience de la connaître. Après le dîner, donc, à la tombée de la nuit, je m'échappais seul dehors. L'air vif, âpre, sentait je ne sais quoi d'inconnu. Et un bruit singulier, à la fois faible et immense, se faisait derrière les petites montagnes de sable auxquelles un sentier conduisait. Tout m'effrayait. Ce bout de sentier inconnu, ce crépuscule tombant d'un ciel couvert, et aussi la solitude de ce coin de village. Cependant, armée d'une de ces grandes résolutions subites, comme les bébés les plus timides en prennent quelquefois, je partis d'un pas ferme. Puis tout à coup, je m'arrêtai glacé, frissonnant de peur. Devant moi, quelque chose apparaissait, quelque chose de sombre et de bruissant qui avait surgi de tous les côtés en même temps et qui semblait ne pas finir. Une étendue en mouvement qui me donnait le vertige mortel. Évidemment, c'était ça. Pas une minute d'hésitation, ni même d'étonnement que ce fût ainsi. Non, rien que de l'épouvante. Je reconnaissais et je tremblais. C'était d'un vert obscur, presque noir. Ça semblait instable, perfide, engloutissant. Ça remuait et ça se démenait partout à la fois, avec un air de méchanceté sinistre. Au-dessus s'étendait un ciel tout d'une pièce, d'un gris foncé comme un manteau lourd. Très loin seulement, à d'inappréciables profondeurs d'horizon, on apercevait une déchirure un jour entre le ciel et les eaux. Une longue fente vide d'une claire pâleur jaune. Pour la reconnaître ainsi, la mer, l'avais-je déjà vue? Peut-être, inconsciemment, lorsque vers l'âge de 5 ou 6 mois on m'avait emmené dans l'île, chez une grande tante sœur de ma grand-mère, ou bien avait-elle été si souvent regardée par mes ancêtres marins que j'étais née ayant déjà dans la tête un reflet confus de son immensité. Nous restâmes un moment, l'un devant l'autre, moi fascinée par elle. Dès cette première entrevue, sans doute, j'avais l'insaisissable pressentiment qu'elle finirait un jour par me prendre, malgré toutes mes hésitations, malgré toutes les volontés qui essaieraient de me retenir. Ce que j'éprouvais en sa présence était non seulement de la frayeur, mais surtout une tristesse sans nom, une impression de solitude désolée, d'abandon, d'exil. Et je repartis en courant, la figure très bouleversée, je pense, et les cheveux tourmentés par le vent, avec une hâte extrême d'arriver auprès de ma mère, de l'embrasser, de me serrer contre elle, de me faire consoler de 1000 angoisses anticipées, inexpressibles, qui m'avaient étreint le cœur à la vue de ces grandes étendues vertes et profondes. Ma mère, déjà 2 ou 3 fois dans le cours de ses notes, j'ai prononcé son nom, mais sans m'y arrêter, comme en passant. Il semble qu'au début, elle n'ait été pour moi que le refuge naturel, l'asile contre toutes les frayeurs de l'inconnu, contre tous les chagrins noirs qui n'avaient pas de cause définie. Mais je crois que la plus lointaine fois où son image m'apparaît bien réelle et vivante, dans un rayonnement de vraie et ineffable tendresse, c'est un matin du mois de mai, où elle entra dans ma chambre, suivie d'un rayon de soleil, et m'apportant un bouquet de jacinthes roses. Je relevais d'une de ces petites maladies d'enfant, rougeole ou bien coqueluche, je ne sais quoi de ce genre. On m'avait condamné à rester couchée pour avoir bien chaud, et comme je devinais à des rayons qui filtraient par mes fenêtres fermées la splendeur nouvelle du soleil et de l'air, je me trouvais triste entre les rideaux de mon lit blanc. Je voulais me lever, sortir. Je voulais surtout voir ma mère à tout prix. La porte s'ouvrit, et ma mère entra, souriante. Oh, je la revois si bien encore, telle qu'elle m'apparut là, dans l'embrasure de cette porte, arrivant accompagnée d'un peu du soleil et du grand air du dehors. Je retrouve tout. L'expression de son regard rencontrant le mien, le son de sa voix, même les détails de sa chère toilette, qui paraîtrait si drôle et si surannée aujourd'hui. Elle revenait de faire quelques courses matinales en ville. Elle avait un chapeau de paille avec des roses jaunes et un châle en barège lilas. C'était l'époque du châle. Semé de petits bouquets d'un violet plus foncé. Ses papillotes noires, ces pauvres bien-aimées papillotes qui n'ont pas changé de forme mais qui sont hélas éclaircies et toutes blanches aujourd'hui, n'étaient alors mêlées d'aucun fil d'argent. Elle sentait une odeur de soleil et d'été qu'elle avait prise dehors. Sa figure de ce matin-là, encadrée dans son chapeau à grands bas-volets, est encore absolument présente à mes yeux. Avec ce bouquet de jacinthes roses, elle m'apportait aussi un petit pot à eau et une petite cuvette de poupée, imitée en extrême miniature de ces faïences à fleurs qu'ont les bonnes gens dans les villages. Elle se pencha sur mon lit pour m'embrasser. Et alors je n'eus plus envie de rien, ni de pleurer, ni de me lever, ni de sortir. Elle était là, et cela me suffisait. Je me sentais entièrement consolée, tranquillisée, changée par sa bienfaisante présence. Je devais avoir un peu plus de 3 ans lorsque ceci se passait, et ma mère environ 42. Mais j'étais sans la moindre notion sur l'âge de ma mère. L'idée ne me venait seulement jamais de me demander si elle était jeune ou vieille. Ce n'est même qu'un peu plus tard que je me suis aperçue qu'elle était bien jolie. Non, en ce temps-là, c'était elle, voilà tout. Autant dire une figure tout à fait unique, que je ne songeais à comparer à aucune autre, d'où rayonnait pour moi la joie, la sécurité, la tendresse, d'où émanait tout ce qui était bon, y compris la foi naissante et la prière. Et je voudrais, pour la première apparition de cette figure bénie dans ce livre de souvenirs, la saluer avec des mots à part, si c'était possible, avec des mots faits pour elle, et comme il n'en existe pas. Des mots qui à eux seuls feraient couler les larmes bienfaisantes, auraient je ne sais quelle douceur de consolation et de pardon, puis renfermeraient aussi l'espérance obstinée, toujours et malgré tout, d'une réunion céleste sans fin. Car puisque je touche à ce mystère et à cette inconséquence de mon esprit, je vais dire ici en passant que ma mère est la seule au monde de qui je n'ai pas le sentiment que la mort me séparera pour jamais. Avec d'autres créatures humaines que j'ai adorées de tout mon cœur, de toute mon âme, j'ai essayé ardemment d'imaginer un après quelconque, un lendemain quelque part ailleurs, je ne sais quoi d'immatériel ne devant pas finir. Mais non, rien, je n'ai pas pu. Et toujours j'ai eu horriblement conscience du néant des néants, de la poussière des poussières. Tandis que pour ma mère, j'ai presque gardé intactes mes croyances d'autrefois. Il me semble encore que quand j'aurai fini de jouer en ce monde mon bout de rôle misérable, fini de courir par tous les chemins non battus, après l'impossible. Fini d'amuser les gens avec mes fatigues et mes angoisses. J'irai me reposer quelque part où ma mère, qui m'aura devancée, me recevra. Et ce sourire de sereine confiance qu'elle a maintenant sera devenu alors un sourire de triomphante certitude. Il est vrai, je ne vois pas bien ce que sera ce lieu vague qui m'apparaît comme une pâle vision grise, et les mots, si incertains et flottants qu'ils soient, donnent encore une forme trop précise à ces conceptions de rêve. Et même, c'est bien enfantin ce que je vais dire là, je le sais, et même dans ce lieu, je me représente ma mère ayant conservé son aspect de la terre, ses chères boucles blanches, et les lignes droites de son joli profil que les années m'abîment peu à peu, mais que j'admire encore. La pensée que le visage de ma mère pourrait un jour disparaître à mes yeux pour jamais, qu'il ne serait qu'une combinaison d'éléments susceptibles de se désagréger et de se perdre sans retour dans l'abîme universel. Cette pensée, non seulement me fait saigner le cœur, mais aussi me révolte, comme inadmissible et monstrueuse. Oh non, j'ai le sentiment qu'il y a dans ce visage quelque chose d'à part que la mort ne touchera pas. Et mon amour pour ma mère, qui a été le seul stable des amours de ma vie, et d'ailleurs si affranchi de tout lien matériel qu'il me donne presque confiance à lui seul en une indestructible chose qui serait l'âme. Et il me rend encore par instant une sorte de dernier et inexplicable espoir. Je ne comprends pas très bien pourquoi cette apparition de ma mère auprès de mon petit lit de malade ce matin m'a tant frappée, puisqu'elle était presque constamment avec moi. Il y a là encore des dessous très mystérieux. C'est comme si à ce moment particulier elle m'avait été révélée pour la première fois de ma vie. Et pourquoi, parmi mes jouets d'enfant conservés, ce pot à eau de poupée a-t-il pris, sans que je le veuille, une valeur privilégiée, une importance de relique? Tellement qu'il m'est arrivé au loin sur mer, à des heures de danger, d'y repenser avec attendrissement et de le revoir, à la place qu'il occupe depuis des années, dans une certaine petite armoire jamais ouverte, parmi d'autres débris. Tellement que s'il disparaissait, il me manquerait une amulette que rien ne me remplacerait plus. Et ce pauvre châle de barège lilas, reconnu dernièrement parmi des vieilleries qu'on voulait donner à des mendiantes, pourquoi l'ai-je fait mettre de côté comme un objet précieux? Dans sa couleur aujourd'hui fanée, dans ses petits bouquets rococo d'un dessin indien, je retrouve encore comme une protection bienfaisante et un sourire. Je crois même que j'y retrouve du calme, de la confiance douce, presque de la foi. Il s'en échappe pour moi toute une émanation de ma mère enfin, mêlée peut-être aussi à un regret mélancolique pour ces matins de mai d'autrefois, qui étaient plus lumineux que ceux de nos jours. En vérité, je crains qu'il ne paraisse bien ennuyeux à beaucoup de gens ce livre, le plus intime d'ailleurs que j'ai jamais écrit. En le notant au milieu de ces calmes d'éveillés qui sont favorables aux souvenirs, j'ai constamment présente à ma pensée l'esquisse reine à laquelle j'ai voulu le dédier. C'est comme une longue lettre que je lui adresserai, avec la certitude d'être compris jusqu'au bout, et compris même au-delà, dans ces dessous profonds que les mots n'expriment pas. Peut-être comprendront-ils aussi mes amis inconnus, qui me suivent avec une bonne sympathie lointaine. Et du reste, tous les hommes qui chérissent, ou en qui ont chéri leur mère, ne souriront pas des choses enfantines que je viens de dire. J'en suis très sûre. Mais pour tant d'autres auxquels un pareil amour est étranger, ce chapitre semblera certainement bien ridicule. Et n'imagine pas ceci en échange de leur haussement d'épaule, tout le dédain que je leur offre. Pour en finir avec les images tout à fait confuses des commencements de ma vie, je veux encore parler d'un rayon de soleil, rayon triste cette fois, qui a laissé en moi-même sa marque ineffaçable et dont le sens ne me sera jamais expliqué. Au retour du service religieux, un dimanche, ce rayon m'apparut. Il entrait dans un escalier de la maison, par une fenêtre entrebâillée, et s'allongeait d'une certaine manière bizarre sur la blancheur d'un mur. J'étais revenue du temple seule avec ma mère, et je montais l'escalier en lui donnant la main. La maison, pleine de silence, avait cette sonorité particulière au midi très chaud de l'été. Ce devait être en août ou en septembre. Et suivant l'usage de nos pays, les contrevents à demi fermés entretenaient une espèce de nuit pendant l'ardeur du soleil. Dès l'entrée, il me vint une conception déjà mélancolique de ce repos du dimanche qui, dans les campagnes et dans les recoins paisibles des petites villes, est comme un arrêt de la vie. Mais quand j'aperçus ce rayon de soleil plongeant obliquement dans cet escalier par cette fenêtre, ce fut une impression bien autrement poignante de tristesse, quelque chose de tout à fait incompréhensible et de tout à fait nouveau. Où entrait peut-être la notion infuse de la brièveté des étés de la vie, de leur fuite rapide et de l'impassible éternité des soleils. Mais d'autres éléments plus mystérieux s'y mêlaient aussi, qu'il me serait impossible d'indiquer même vaguement. Je veux seulement ajouter à l'histoire de ce rayon une suite qui, pour moi, y est intimement liée. Des années et des années passèrent. Devenu homme, ayant vu les deux bouts du monde et couru toutes les aventures, il m'arriva d'habiter, pendant un automne et un hiver, une maison isolée au fond d'un faubourg de Stamboul. Là, sur le mur de mon escalier, chaque soir à la même heure, un rayon de soleil, arrivé par une fenêtre, glissait en biais. Il éclairait une sorte de niche qui était creusée dans la pierre et où j'avais posé une amphore d'Athènes. Eh bien, jamais je n'ai pu voir descendre ce rayon sans repenser à l'autre, celui de ce dimanche d'autrefois, et sans éprouver la même, précisément la même impression triste, à peine atténuée par le temps et toujours aussi pleine de mystères. Puis, quand le moment vint où il me fallut quitter la Turquie, quitter ce petit logis dangereux de Stamboul que j'avais adoré, à tous les déchirements du départ se mêla par instants cet étrange regret. Jamais plus je ne reverrai le soleil oblique de l'escalier descendre sur la niche du mur et sur l'amphore grec. Évidemment, dans les dessous de tout cela, il doit y avoir, sinon des ressouvenirs de préexistence personnelle, au moins des reflets incohérents de pensées d'ancêtres, toutes choses que je suis incapable de dégager mieux de leur nuit et de leur poussière. D'ailleurs, je ne sais plus, je ne vois plus. Me voici de nouveau entré dans le domaine du rêve qui s'efface, de la fumée qui fuit, de l'insaisissable rien. Et tout ce chapitre, presque inintelligible, n'a d'autre excuse que d'avoir été écrit avec un grand effort de sincérité, d'être absolument vrai. Au printemps, à la toute fraîche splendeur de mai, sur un chemin solitaire appelé la route des fontaines, j'ai cherché à mettre à peu près par ordre de date ces souvenirs. Je pense que je pouvais avoir 5 ans lorsque ceci se passait. Donc, assez grand déjà pour me promener avec mon père et ma sœur, j'étais là, un matin de rosée, extasiée de voir tout devenu si vert, de voir si promptement les feuilles élargies, les buissons touffus, sur les bords du chemin, les herbes montées toutes ensemble, comme un immense bouquet sorti en même temps de toute la terre. Il était fleuri d'un délicieux mélange de géranium rose et de véronique bleue. Et j'en ramassais. J'en ramassais de ces fleurs, ne sachant auquel courir, piétinant dessus, me mouillant les jambes de rosée, émerveillée de tant de richesses à ma discrétion, voulant prendre à pleine main et tout emporter. Ma sœur, qui déjà tenait une gerbe d'aubépine, d'iris, de longues graminées comme des aigrettes, se penchait vers moi, me tirant par la main, disant « Allons, c'est assez à présent !» « Nous ne pourrons jamais tout cueillir, tu vois bien. » Mais je n'écoutais pas, absolument grisée par la magnificence de tout cela, ne me rappelant pas avoir jamais vu rien de pareil. C'était le commencement de ces promenades avec mon père et ma sœur, qui pendant longtemps, jusqu'à l'époque maussade des cahiers, des leçons, des devoirs, se firent presque chaque jour, tellement que je connus de très bonne heure les chemins des environs et les variétés des fleurs qu'on y pouvait moissonner. Pauvre campagne de mon pays, monotone mais que j'aime quand même, monotone, unie, pareille, prairie de foins et de marguerites, où en ces temps-là je disparaissais, enfouie sous les tiges vertes, champs de blé avec des sentiers bordés d'aubépines. Du côté de l'ouest, au bout des lointains, je cherchais des yeux la mer qui parfois, quand on était allé très loin, montrait au-dessus de ces lignes déjà si planes une autre petite raie bleuâtre, plus complètement droite et attirante. Attirante à la longue comme un grand aimant patient, sûr de sa puissance et pouvant attendre. Ma sœur et mon frère, dont je n'ai pas parlé encore, étaient de bien des années mes aînés, de sorte qu'il semblait alors surtout que je fusse d'une génération suivante. Donc ils étaient pour me gâter, en plus de mon père et de ma mère, de mes grands-mères, de mes tantes et grand-tantes, et seul enfant au milieu d'eux tous, je poussais comme un petit arbuste trop soigné en serre, trop garanti, trop ignorant des halliers et des ronces. On a avancé que les gens doués pour bien peindre, avec des couleurs ou avec des mots, sont probablement des espèces de demi-aveugles qui vivent d'habitude dans une pénombre, dans un brouillard lunaire, le regard tourné en dedans, et qui alors, quand par hasard ils voient, sont impressionnés 10 fois plus vivement que les autres hommes. Cela me semble un peu paradoxal. Mais il est certain que la pénombre dispose à mieux voir, comme dans les panoramas, par exemple, cette obscurité des vestibules qui prépare si bien au grand trompe-l'œil final. Au cours de ma vie, j'aurais donc été moins impressionné sans doute par la fantasmagorie changeante du monde si je n'avais commencé l'étape dans un milieu presque incolore, dans le coin le plus tranquille de la plus ordinaire des petites villes, recevant une éducation austèrement religieuse, bornant mes plus grands voyages à ces bois de la Limoise, qui me semblaient profonds comme les forêts primitives, ou bien à ces plages de l'île qui me mettaient un peu d'immensité dans les yeux lors de mes visites à mes vieilles tantes de Saint-Pierre-d'Oléron. C'était surtout dans la cour de notre maison que se passait le plus clair de mes étés. Il me semblait que ce fut là mon principal domaine, et je l'adorais. Bien jolie, il est vrai, cette cour, plus ensoleillée et aérée et fleurie que la plupart des jardins de ville. Sorte de longue avenue de branches vertes et de fleurs, bordée au midi par de vieux petits murs bas, d'où retombaient des rosiers, des chèvrefeuilles, et que dépassaient des têtes d'arbres fruitiers du voisinage. Longue avenue très fleurie, donnant des illusions de profondeur. Elle s'en allait en perspective fuyante, sous des berceaux de vignes et de jasmin, jusqu'à un recoin qui s'élargissait comme un grand salon de verdure. Puis elle finissait à un chêne de construction très ancienne, dont les pierres grises disparaissaient sous des treilles et du lierre. Oh, que je l'ai aimée, cette cour, et que je l'aime encore. Les plus pénétrants premiers souvenirs que j'en ai gardés sont, je crois, ceux des belles soirées longues de l'été. Oh, revenir de la promenade, le soir, à ces crépuscules chauds et limpides qui étaient certainement bien plus délicieux alors qu'aujourd'hui. Rentrer dans cette cour, que les daturas, les chèvrefeuilles, remplissaient des plus suaves odeurs, et en arrivant à percevoir dès la porte toute cette longue enfilade de branches retombantes. Par-dessous un premier berceau de jasmin de la Virginie, une trouée dans la verdure laissait paraître un coin encore lumineux du rouge couchant. Et tout au fond, parmi les masses déjà assombries des feuillages, on distinguait 3 ou 4 personnes bien tranquillement assises sur des chaises. Des personnes en robe noire, il est vrai, et immobiles. Mais très rassurantes quand même, très connues, très aimées. Mère, grand-mère et tante. Alors je prenais ma course pour aller me jeter sur leurs genoux. Et c'était un des instants les plus amusants de ma journée. 2 enfants, deux tout petits, assis bien près l'un de l'autre, sur des tabourets bas, dans une grande chambre qui s'emplissait d'ombre à l'approche d'un crépuscule de mars. Deux tout petits de 5 à 6 ans, en pantalons courts, blouses et tabliers blancs par-dessus, à la mode de ce temps-là. Bien tranquille, après avoir fait le diable, s'amusant dans un coin avec des crayons et des bouts de papier. L'esprit inquiété d'une vague crainte, cependant, à cause de la lumière mourante. Des deux bébés, un seul dessinait. C'était moi. L'autre, un ami invité pour la journée par exception, regardait faire, du plus près qu'il pouvait, avec difficulté, mais en confiance cependant, il suivait les fantaisies de mon crayon que je prenais soin de lui expliquer à mesure. Et de fait, les explications devaient être nécessaires, car j'exécutais deux compositions de sentiments que j'intitulais, l'une « Le canard heureux », l'autre « Le canard malheureux ». La chambre où cela se passait avait dû être meublée vers 1805, quand s'était mariée la pauvre très vieille grand-mère qui l'habitait encore et qui, ce soir-là, assise dans son fauteuil de forme directoire, chantait toute seule, sans prendre garde à nous. C'est confusément que je m'en souviens de cette grand-mère, car sa mort est survenue peu après ce jour. Et comme je ne rencontrerai même plus guère son image vivante dans le cours de ses notes, je vais ouvrir ici une parenthèse pour elle. Il paraît que jadis, au milieu de toutes sortes d'épreuves, elle avait été une vaillante et admirable mère. Après des revers comme on en éprouvait en ces temps-là, ayant perdu son mari tout jeune à la bataille de Trafalgar, et ensuite son fils aîné au naufrage de la Méduse, elle s'était mise résolument à travailler pour élever son second fils, mon père, jusqu'au moment où lui avait pu en échange l'entourer de soins et de bien-être. Vers ses 80 ans, qui n'étaient pas loin de sonner quand je vins au monde, l'enfance sénile avait tout à coup terrassé son intelligence. Je ne l'ai donc guère connue qu'ainsi, les idées perdues, l'âme absente. Elle s'arrêtait longuement devant certaines glaces pour causer, sur le ton le plus aimable, avec son propre reflet qu'elle appelait ma bonne voisine ou mon cher voisin. Mais sa folie consistait surtout à chanter avec une exaltation excessive la Marseillaise, la Parisienne, le chant du départ, tous les grands hymnes de transition qui, au temps de sa jeunesse, avaient passionné la France. Cependant, elle avait été très calme à ces époques agitées, ne s'occupant que de son intérieur et de son fils. Et on trouvait d'autant plus singulier cet écho tardif des grandes tourmentes d'alors, éveillées au fond de sa tête à l'heure où s'accomplissait pour elle le noir mystère de la désorganisation finale. Je m'amusais beaucoup à l'écouter. Souvent j'en riais, bien que sans moquerie révérencieuse, et jamais elle ne me faisait peur, parce qu'elle était restée absolument jolie, des traits fins et réguliers, le regard bien doux, de magnifiques cheveux à peine blancs, et aux joues ces délicates couleurs de rose séchées que les vieillards de sa génération avaient souvent le privilège de conserver. Je ne sais quoi de modeste, de discret, de candidement honnête était dans toute sa petite personne encore gracieuse, que je revois le plus souvent enveloppée d'un châle de cachemire rouge et coiffée d'un bonnet de l'ancien temps à grande coque de ruban vert. Sa chambre où j'aimais venir jouer parce qu'il y avait de l'espace et qu'il y faisait soleil toute l'année était d'une simplicité de presbytère campagnard. Des meubles du directoire en noyer ciré, le grand lit drapé d'une épaisse cotonnade rouge, des murs peints à l'ocre jaune, auxquels étaient accrochés dans des cadres d'or terni des aquarelles représentant des vases et des bouquets. De très bonne heure, je me rendais compte de tout ce que cette chambre avait d'humble et d'ancien dans son arrangement. Je me disais même que la bonne vieille aïeule aux chansons devait être beaucoup moins riche que mon autre grand-mère, plus jeune d'une 20aine d'années, et toujours vêtue de noir, qui m'imposait bien davantage. À présent, je reviens à mes deux compositions au crayon. Les premières, assurément, que j'ai jamais jetées sur le papier, ces deux canards occupant des situations sociales si différentes. Pour le canard heureux, j'avais représenté dans le fond du tableau une maisonnette et près de l'animal lui-même une grosse bonne femme qu'il appelait pour lui donner à manger. Le canard malheureux, au contraire, nageait seul, abandonné sur une sorte de mer brumeuse que figuraient deux ou trois traits parallèles, et dans le lointain, on apercevait les contours d'un morne rivage. Le papier mince, feuillet arraché à quelques livres, était imprimé au revers, et les lettres, les lignes transparaissaient en taches grisâtres qui subitement produisirent à mes yeux l'impression des nuages du ciel. Alors ce petit dessin, plus informe qu'un barbouillage d'écolier sur un mur de classe, se compléta étrangement de ces taches du fond, prit tout à coup pour moi une effrayante profondeur. Le crépuscule aidant, et s'agrandit comme une vision, se creusa au loin comme les surfaces pâles de la mer. J'étais épouvanté de mon œuvre, et découvrant des choses que je n'y avais certainement pas mises, et qui d'ailleurs devaient m'être à peine connues. « Oh ! » disais-je avec exaltation, la voix toute changée, à mon petit camarade qui ne comprenait pas du tout. « Oh ! Vois-tu ? Je ne peux pas le regarder !» Je le cachais sous mes doigts, ce dessin, mais j'y revenais toujours, et le regardais si attentivement, au contraire, qu'aujourd'hui, après tant d'années, je le revois encore tel qu'il m'apparut là, transfiguré. Une lueur traînait sur l'horizon de cette mer si gauchement esquissée. Le reste du ciel était chargé de pluie, et cela me semblait être un soir d'hiver par grand vent. Le canard malheureux, seul, loin de sa famille et de ses amis, se dirigeait, sans doute pour s'y abriter pendant la nuit, vers ce rivage brumeux là-bas, sur lequel pesait la plus désolée tristesse. Et certainement, pendant une minute furtive, j'eus la prescience complète de ces serments de cœur que je devais connaître plus tard, au cours de ma vie de marin, lorsque par les mauvais temps de décembre, mon bateau entrerait le soir, pour s'abriter jusqu'au lendemain, dans quelque baie inhabitée de la côte bretonne, ou bien, et surtout au crépuscule de l'hiver austral, vers les parages de Magellan, quand nous viendrions chercher un peu de protection pour la nuit auprès de ces terres perdues, qui sont là-bas, aussi inhospitalière, aussi infiniment déserte que les eaux d'alentour. Quand l'espèce de vision fut partie, dans la grande chambre nue et envahie d'ombre où ma grand-mère chantait, je me retrouvai, comme devant, un tout petit être n'ayant encore rien vu du vaste monde, ayant peur sans savoir de quoi, et ne comprenant même plus bien comment l'envie de pleurer lui était venue. Depuis, j'ai souvent remarqué du reste que des barbouillages rudimentaires tracés par des enfants, des tableaux aux couleurs fausses et froides, peuvent impressionner beaucoup plus que d'habiles ou géniales peintures. Par cela précisément qu'ils sont incomplets et qu'on est conduit, en les regardant, à y ajouter mille choses de soi-même, mille choses sorties des tréfonds à sonder et qu'aucun pinceau ne saurait saisir. Au-dessus de chez la pauvre vieille grand-mère qui chantait la Marseillaise, au second étage, dans la partie de notre maison qui donnait sur des cours et des jardins, habitait ma grand-tante Berthe. De ses fenêtres, par-dessus quelques maisons et quelques murs bas garnis de rosiers ou de jasmin, on apercevait les remparts de la ville. Assez voisins de nous, avec leurs arbres centenaires, et au-delà, un peu de ces grandes plaines de notre pays qu'on appelle des prés, qu'il était se couvre de hauts herbages et qui sont unis, monotones, comme la mer voisine. De là-haut, on voyait aussi la rivière. Aux heures de la marée, quand elle était pleine jusqu'au bord, elle apparaissait comme un bout de lacet argenté dans la prairie verte. Et les bateaux, grands ou petits, passaient dans le lointain sur ce mince filet d'eau, remontant vers le port ou se dirigeant vers le large. C'était du reste notre seule échappée de vue sur la vraie campagne. Aussi ces fenêtres de ma grand-tante Berthe avaient-elles pris de très bonne heure un attrait particulier pour moi. Surtout le soir, à l'heure où se couchait le soleil, dont on voyait de là si bien le disque rouge s'abîmer mystérieusement derrière les prairies. Oh, ces couchers de soleil, regardez des fenêtres de tante Berthe, quelles extases et quelle mélancolie quelquefois ils me laissaient. Les couchers de l'hiver qui étaient d'un rose pâle à travers les vitres fermées, ou les couchers de l'été, ceux des soirs d'orage qui étaient chauds et splendides et qu'on pouvait contempler longuement, en ouvrant tout, en respirant la senteur des jasmins des murs. Non, bien certainement, il n'y a plus aujourd'hui des couchers de soleil comme ceux-là. Quand ils s'annonçaient plus spécialement magnifiques ou extraordinaires, et que je n'y étais pas, tante Berthe, qui n'en manquait pas un, m'appelait en hâte. « Petit, petit, viens vite !» D'un bout à l'autre de la maison, j'entendais cet appel et je comprenais. Alors je montais quatre à quatre, comme un petit ouragan dans les escaliers. Je montais d'autant plus vite que ces escaliers commençaient à se remplir d'ombre et que déjà, dans les tournants, dans les coins, s'esquissaient ces formes imaginaires de revenants ou de bêtes qui, la nuit, manquaient rarement de courir après moi sur les marches à ma grande terreur. La chambre de ma grand-tante Berthe était également très modeste, avec des rideaux de mousseline blanche, les murs tapissés d'un papier à vieux dessins du commencement de ce siècle, était orné d'aquarelles comme chez grand-mère d'en bas. Mais ce que je regardais surtout, c'était un pastel représentant, d'après Raphaël, une vierge drapée de blanc, de bleu et de rose. Précisément, les derniers rayons du soleil l'éclairaient toujours en plein. Et j'ai déjà dit que l'heure du couchant était par excellence l'heure de cette chambre-là. Or, cette vierge ressemblait à tante Berthe, malgré la grande différence des âges. On était frappé de la similitude des lignes si droites et si régulières de leurs deux profils. À ce même second étage, mais du côté de la rue, habitait mon autre grand-mère, celle qui s'habillait toujours de noir, et sa fille, ma tante Claire, la personne de la maison qui me gâtait le plus. L'hiver, j'avais coutume de me rendre chez elle, en sortant de chez tante Berthe, après le soleil couché. Dans la chambre de grand-mère, où je les trouvais généralement toutes deux réunies, je m'asseyais près du feu, sur une chaise d'enfant placée là à mon usage, pour passer l'heure toujours un peu pénible, un peu angoissante du chien et loup. Après tous les remuements, tous les sauts de la journée, cette heure grise m'immobilisait presque toujours sur cette même petite chaise, les yeux très ouverts, inquiets, guettant les moindres changements dans la forme des ombres, surtout du côté de la porte, entrebâillée sur l'escalier obscur. Évidemment, si on avait su quelle tristesse et quelle frayeur les crépuscules me causaient, on eût allumé bien vite pour me les éviter. Mais on ne le comprenait pas, et les personnes, presque toutes âgées, qui m'entouraient avec coutume quand le jour baissait de rester ainsi longtemps tranquille à leur place, sans éprouver le besoin d'une lampe. Quand la nuit s'épaississait davantage, il fallait même que l'une des deux, grand-mère ou tante, avançât sa chaise tout près, et que je sentisse sa protection immédiatement derrière moi. Alors, complètement rassurée, je disais « Raconte-moi des histoires de l'île à présent. » L'île, c'est-à-dire l'île d'Oléron, était le pays de ma mère et le leur, qu'elles avaient quitté toutes les trois, une vingtaine d'années avant ma naissance, pour venir s'établir ici, sur le continent. Et c'est singulier le charme qu'avait pour moi cette île et les moindres choses qui en venaient. Nous n'en étions pas très loin, puisque de certaines lucarnes du toit de notre maison, on l'apercevait par les temps clairs, tout au bout des grandes plaines unies. Une petite ligne bleuâtre, au-dessus de cette autre mince ligne plus pâle qui était le bras de l'océan, la séparant de nous. Mais pour s'y rendre, c'était tout un voyage, à cause des mauvaises voitures campagnardes, des barques à voile dans lesquelles il fallait passer, souvent par grandes brises d'ouest. À cette époque, dans la petite ville de Saint-Pierre-de-Léron, J'avais trois vieilles tantes qui vivaient très modestement des revenus de leur marais salant, des bris de fortune dissipées, et de redevances annuelles que des paysans leur payaient encore en sacs de blé. Quand on allait les voir à Saint-Pierre, c'était pour moi une joie mêlée de toutes sortes de sentiments compliqués. Encore à l'état d'ébauche que je ne débrouillais pas bien. L'impression dominante, c'était que leur personne, l'austérité huguenote de leurs allures, leur manière de vivre, leur maison, leurs meubles, tout enfin datait d'une époque passée, d'un siècle antérieur. Et puis il y avait la mer, qu'on devinait tout autour, nous isolant. La campagne encore plus plate, plus battue par le vent. Les grands sables, les grandes plages. Ma bonne était aussi de Saint-Pierre-de-Léron, d'une famille huguenote dévouée de père en fils à la nôtre, et elle avait une manière de dire dans l'île qui me faisait passer dans un frisson toute sa nostalgie de là-bas. Une foule de petits objets venus de l'île et très particuliers avaient pris place chez nous. D'abord ces énormes galets noirs, pareils à des boulets de canon, choisis entre mille parmi ceux de la grande côte, polis et roulés pendant des siècles sur les plages. Ils faisaient partie du petit train régulier de nos soirées d'hiver. Aux veillées, on les mettait dans les cheminées où flambaient de beaux feux de bois. Ensuite, on les enfermait dans des sacs d'indienne à fleurs, également venus de l'île, et on les portait dans les lits, où jusqu'au matin, ils tenaient chaud les pieds des personnes couchées. Et puis, dans le chai, il y avait des fourches, des jarres. Il y avait surtout une quantité de grandes gaules droites, en ormeaux, pour tendre les lessives, qui étaient de jeunes arbres choisis et coupés dans les bois de grand-mère. Toutes ces choses jouissaient à mes yeux d'un rare prestige. Ces bois, je savais que grand-mère ne les possédait plus, ni ses marais salants, ni ses vignes. J'avais entendu qu'elle s'était décidée à les vendre peu à peu, pour placer l'argent sur le continent, et qu'un certain notaire peu délicat avait par de mauvais placements réduit à très peu de choses cet avoir. Quand j'allais dans l'île, quand d'anciens sauniers, d'anciens vignerons de ma famille, toujours fidèles et soumis, m'appelaient « notre petit bourgeois », ce qui signifie « notre petit maître ». C'était donc par pure politesse et déférence de souvenir. Mais j'avais déjà un regret de tout cela, cette vie passée à surveiller des vendanges ou des moissons, qui avait été la vie de plusieurs de mes ascendants, me semblait bien plus désirable que la mienne, si enfermée dans une maison de ville. Les histoires de l'île que me contaient grand-mère et tante Claire étaient surtout des aventures de leur enfance, et cette enfance me paraissait lointaine, lointaine, perdue dans des époques que je ne pouvais me représenter qu'à demi éclairées comme les rêves. Des grands-parents y étaient toujours mêlés. Des grands-oncles, jamais connus, morts depuis bien des années, dont je me faisais dire les noms et dont les aspects m'intriguaient, me plongeaient dans des rêveries sans fin. Il y avait surtout un certain aïeul, Samuel, qui avait vécu au temps des persécutions religieuses et auquel je portais un intérêt tout à fait spécial. Je ne tenais pas à ce que ce fût varié, ces histoires. Souvent même, j'en faisais recommencer de déjà racontées qui m'avaient plus particulièrement captivée. En général, c'était des voyages, sur ces petits ânes qui jouaient un rôle si important jadis dans la vie des bonnes gens de l'île, pour aller visiter des propriétés éloignées, des vignes, ou bien pour traverser les sables de la Grande Côte. Ensuite, sur le soir de ces expéditions, se déchaînaient des orages terribles qui obligeaient à camper pour la nuit dans des auberges, dans des fermes. Et quand mon imagination était bien tendue vers ces choses d'autrefois, dans l'obscurité tout à fait épaissie dont je n'avais plus conscience, « Drelin, Drelin !» la sonnette du dîner. Je me levais en sautant de joie. Nous descendions ensemble dans la salle à manger, où je retrouvais toute la famille réunie, la lumière, la gaieté, et où je me jetais tout d'abord sur maman pour me cacher la figure dans sa robe.